Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, le panache de Joe Wilfried Tsonga pour ses adieux au tennis. L'ancien numéro 5 mondial aura fait vibrer le public jusqu'au bout. On sera en direct de Roland-Garros dans un instant. Jacques Boutier a démissionné, l'ancien PDG d'Assu 2000 incarcéré. Il est mis en examen pour viol sur mineur. On va revenir en détail sur cette affaire dans ce journal. Les patrons ont prié par Bercy de faire un geste pour leurs salariés. Près de 40% des petits patrons ont déjà augmenté les salaires. Des injures et des klaxons, parfois des manœuvres dangereuses et des bagarres en pleine rue. On vous dévoile le baromètre des incivilités au volant. Vous allez découvrir dans quelle région les automobilistes sont les plus insupportables. Le temps demain, ce sera instable dans le sud-est, nuageux au nord-ouest. Les législatives dans moins de 3 semaines. Maintenant, notre invité à 22h20, Franck Alizio, conseiller de Marine Le Pen et candidat RN dans les Bouches-du-Rhône. Et avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Il aura brillé au plus haut du tennis mondial. Joe Wilfried Tsonga, 37 ans, a donc tiré sa révérence sous l'ovation du public de Roland-Garros cet après-midi après son tout dernier match. Une défaite face au Norvégien Casper Ruud, mais un départ avec beaucoup de panache, Cédric Chasseur, et un match plein d'émotions pour Joe Wilfried Tsonga.
Oui, Joe Wilfried Tsonga n'a pu retenir ses larmes d'ailleurs au moment de servir une dernière fois, amoindri par une blessure à l'épaule après 3 heures de match. Il savait ce qui s'en venait, une défaite face à Casper Ruud et la fin de sa carrière de joueur professionnel. Lui qui a passé près de 18 ans sur le circuit, l'émotion était palpable et visible sur le visage de Joe Wilfried Tsonga, mais aussi de ses proches venus le rejoindre ensuite sur le court, les yeux embués de larmes pour la plupart. Un à un, Tsonga les a enlacés, ses anciens coéquipiers de Coupe Davis, ses anciens entraîneurs, ses parents, sa compagne. Puis il s'est exprimé pour dire au revoir au public du Châtrier une dernière fois.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont permis de rester moi-même, Joe, le petit gars qui voulait devenir tennisman. J'ai eu la chance et la possibilité de le faire. J'espère qu'un jour, tous les enfants de cette terre pourront avoir cette même chance.
Joe Wilfried Tsonga restera tout de même comme l'un des 3 joueurs seulement au monde à avoir battu Djokovic, Nadal, Federer, Murray en grand chelem, s'il vous plaît. Finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste 2 fois ici à Roland-Garros, 260 semaines dans le top 10. C'est un grand bonhomme du tennis qui tire sa révérence.
Merci Cédric Chasseur. On va vous retrouver en direct de Roland-Garros à la fin de ce journal pour les autres faits marquants de cette nouvelle journée sur terre battue. Jacques Boutier n'est plus le PDG d'Assu 2000. Le patron du groupe d'assurance a démissionné après la révélation de l'enquête dont il fait l'objet pour des faits particulièrement graves. Jacques Boutier est l'une des 500 plus grosses fortunes de France. Il est en détention provisoire depuis samedi dernier. À 75 ans, il est accusé de viol sur mineur et de traite d'êtres humains. L'affaire a éclaté grâce à la plainte il y a 2 mois d'une jeune femme de 22 ans au CNTR.
Oui, et dans cette déclaration, elle explique qu'elle vit depuis 5 ans enfermée chez un richissime homme d'affaires qui la viole régulièrement et qui un jour estime qu'elle est trop âgée pour lui. L'homme d'affaires lui demande de lui trouver une remplaçante. Elle se rapproche d'une connaissance, une adolescente de 14 ans. La jeune femme veut alors prouver aux enquêteurs qu'elle dit vrai. Elle leur montre une vidéo de cet homme d'affaires et de la mineure de 14 ans dans un lit. Et c'est là que s'ouvre un autre volet du scandale. La justice soupçonne le PDG d'avoir monter une équipe pour enlever cette jeune femme, la forcer à quitter la France et ainsi récupérer la vidéo. Un commando composé de la femme, du PDG notamment, et d'un ancien gendarme membre du GIGN. L'enquête a été confiée à la Brigade des mineurs de Paris, une enquête très attendue par Oméra Cellier, présidente de l'association Innocence en danger.
En général, ce sont des jeunes filles qui sont désœuvrées, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien. Et il faut voir qui elles sont, où elles sont, les protéger, les mettre à l'abri, leur donner envie de parler, les sécuriser comme on peut, bien sûr.
Libérer la parole pour que d'autres affaires soient révélées au grand jour, poursuit Oméra Cellier, pour que ces jeunes filles ne soient plus condamnées au silence.
Océane Théard, Jean-Luc Ley, remis en liberté ce mardi et placé sous contrôle judiciaire. Le chanteur était incarcéré depuis novembre dans une enquête pour viol et agression sexuelle de 2 mineurs. Nicolas Hulot, lui, a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. L'ancien ministre ministre interrogé en audition libre. L'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari ne pourra pas se reconvertir chez l'armateur CMA-CGM. La haute autorité pour la transparence de la vie publique met son veto et pointe des risques déontologiques substantiels. Jean-Baptiste Djebbari voulait devenir vice-président exécutif du pôle spatial de la CMA-CGM. Des enquêteurs munis de brassards des douanes se sont présentés ce matin chez McKinsey, le siège parisien de ce cabinet de conseil américain perquisitionné. Ce nom de McKinsey vous est familier. Il a parasité, vous le savez, la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron après un rapport du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. La perquisition de ce mardi intervient dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. William Molinier.
Oui, plusieurs policiers avec des brassards des douanes sont entrés en milieu de matinée au siège de McKinsey qui se trouve sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Leurs investigations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 31 mars dernier par le parquet national financier. Enquête confiée au service d'enquête judiciaire des finances, un service de police fiscale placé sous l'autorité de Bercy. En clair, si les enquêteurs ont discrètement poussé les portes de cette entreprise, c'est qu'ils cherchent des indices, des preuves pour étayer des soupçons qui pèsent sur le cabinet de conseil. Soupçons de montage fiscal. Entre 2011 et 2020, McKinsey n'aurait pas payé d'impôts sur les sociétés, alors même qu'une commission d'enquête du Sénat a démontré son influence sur les politiques publiques du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. De son côté, McKinsey a toujours affirmé avoir respecté les règles fiscales françaises qui étaient alors en vigueur. Ce matin, l'entité a répété avoir collaboré avec la police lors de la perquisition, précisant que l'ensemble des informations demandées par la justice ont été fournies.
William Molinier. Le pouvoir d'achat, première urgence du nouveau gouvernement. Le gouvernement qui appelle aussi les patrons à en faire leur priorité. Bruno Le Maire, hier encore à Bercy, mais le ministre de l'économie ne peut guère qu'inciter et certainement pas obliger les employeurs à augmenter les salaires. Une information européenne qu'on vous dévoilait dès ce matin. Selon une étude du Centre des jeunes dirigeants, près de 4 patrons de TPE et PME sur 10 ont déjà augmenté leurs salariés, Élise Dangean.
Oui, et c'est souvent à la demande de ces salariés. 46% des patrons affirment avoir été directement sollicités par leurs collaborateurs. C'est le cas de Charlie Gaillard, patron de la société de recrutement Bigger. Il a augmenté une partie de ses 11 employés.
Si on ne le fait pas, on se rend bien compte qu'on perd des talents et que de toute façon, réembaucher quelqu'un avec la même expérience nous coûtera à la fin plus cher. Donc, il n'y a pas tellement de choix en réalité. Hein.
Alors, tous ne peuvent pas se le permettre, hein, mais certains patrons tiennent tout de même à aider leurs salariés sur la question du pouvoir d'achat. Alors, ils misent sur les avantages en nature, comme Pierre-André Métifio, gérant d'une PME de 47 salariés dans le secteur de l'automobile.
On avait du mal à se projeter, savoir quelles étaient nos capacités financières. On ne sait pas ce dont l'avenir sera fait sur notre secteur d'activité, etc. Donc on avait le sentiment que c'était un gros risque que d'augmenter notre masse salariale. On a souhaité plutôt travailler sur le pouvoir d'achat.
L'entreprise a notamment multiplié par 4 son forfait mobilité pour encourager ses salariés à passer au vélo électrique. Elle propose également une aide jusqu'à 200 euros pour l'installation d'un boîtier éthanol ou encore une location longue durée avantageuse pour un véhicule électrique.
Élise Dangean. 3 mois de guerre exactement en Ukraine. Vladimir Poutine a déclenché l'invasion russe le 24 février. Le ministre russe de la Défense laisse entendre que le conflit va durer. Moscou reste déterminé à atteindre ses objectifs, peu importe le temps que cela va prendre. Dans le Donbass, ce soir, la situation de Lugansk s'empire d'heure en heure, selon le gouverneur de la région. Et puis cette décision qui pourrait précipiter la Russie vers le défaut de paiement, les États-Unis viennent de lever ce soir l'exemption sur le paiement de la dette de la Russie en dollars et qui permettait jusqu'ici à Moscou de régler ses dettes avec des billets verts.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Aujourd'hui, on peut faire Paris-Londres en TGV. Ça va très vite, vous le savez, par le tunnel sous la Manche. Paris-Berlin, c'est une autre paire de manches. En train, le trajet dure 10 heures en moyenne. On parle quand même des capitales des 2 principaux partenaires européens. Tout cela va changer, en tout cas un peu. Un TGV Paris-Berlin sera lancé à la fin de l'année prochaine. Le patron de la SNCF l'a annoncé aujourd'hui depuis Strasbourg, Mélina Fachin.
Oui, après l'ouverture de lignes à grande vitesse ces 15 dernières années entre Paris et Francfort, Stuttgart ou encore Munich, Jean-Pierre Farandou veut voir plus loin et relier d'ici un an et demi les 2 capitales en TGV.
Moi, je voudrais qu'on double le trafic ferroviaire en France et en Europe. On pense d'ailleurs à en faire un Paris-Berlin à la fois de nuit comme de jour. Je suis convaincu que les jeunes vont y aller tout de suite. Et les moins jeunes, petit à petit, viennent parce que cette prise de conscience écologique, elle est en train de rentrer partout dans toutes les familles françaises. Et je suis sûr que le train a un bel avenir devant lui.
Y compris Jean Jean-Pierre Farandou en est convaincu, sur des longs trajets.
Les gens n'ont plus peur de faire 4 heures, 5 heures, 6 heures de train, notamment les jeunes générations d'ailleurs, qui ont envie de prendre le train et moins envie de prendre l'avion, à la fois pour des raisons effectivement du coût de l'énergie, mais aussi pour des raisons de, j'allais dire, citoyennes, de prise de conscience de l'impact sur la planète, de nos choix en matière de déplacement.
Le PDG de la SNCF mise également sur la renaissance des trains de nuit. Là aussi, ce sont de longs trajets. Après Nice, les Pyrénées ou encore Vienne récemment, d'autres lignes pourraient voir le jour. Et il y aura d'ailleurs un Paris-Berlin de nuit, lancé également fin 2023.
Malina Fachin à Strasbourg pour Europe 1. Un Paris-Berlin en TGV qui prendra encore son temps, faute de lignes à grande vitesse sur la totalité du trajet. Une information qui nous parvient à l'instant. 2 enfants ont été tués, 10 d'autres blessés dans une fusillade qui s'est produite dans une école primaire au Texas. 13 enfants ont été pris en charge. La police locale américaine a annoncé avoir arrêté le tireur présumé. Si vous cherchez à trouver ou à vous séparer d'un logement, vous avez forcément entendu parler du diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui vous donne l'indice de consommation d'énergie classé de A à G. Le magazine 60 millions de consommateurs vient en quelque sorte de diagnostiquer ce diagnostic. Sa conclusion, la copie est à revoir. L'enquête de 60 millions a mis en évidence un festival d'erreurs, comme l'explique Virginie Potiron, la juriste de l'association.
Dans une des maisons qui a fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, un indépendant a mesuré la superficie à 162 mètres carrés, alors que notre expert a pu la mesurer à 138 mètres carrés. Dans une autre maison, on a vu des erreurs qui ont conduit à des écarts entre B et D, ce qui est très très important parce que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. De nouvelles contraintes vont entrer en vigueur dans les mois et années à venir. À partir de 2023 jusqu'en 2028, il y aura des interdictions de louer parce que les logements les plus énergivores seront considérés comme non décents. On demande que les diagnostiqueurs soient mieux formés, soient plus vigilants, qu'ils visitent l'ensemble du logement, qu'ils passent dans toutes les pièces, ce qui peut éviter justement les écarts de surface qu'on a pu observer lors de notre étude.
Virginie Potiron de 60 millions de consommateurs avec Maud Descamps. Vous êtes peut-être au volant ce soir avec Europe 1. Alors écoutez bien les résultats de ce baromètre Ipsos qui vous concerne directement en tant qu'automobiliste. Ce baromètre pour la Fondation Vinci Autoroute dresse le classement des régions où l'on compte le plus d'incivilités au volant. Je vous donne tout de suite le podium. À la 3e place, l'Occitanie. 2e, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais les champions des incivilités au volant, eh bien ce sont les conducteurs franciliens. Clément Barguin, vous avez fait réagir des automobilistes dans les rues de Paris.
Oui, se déplacer en Ile-de-France, ce n'est pas une sinécure. Circulation, stress, incivilité, c'est le quotidien de Mohamed, il est chauffeur de taxi.
Ça devient catastrophique quoi, de circuler dans le Paris. Quoi. C'est de plus en plus énervé, les gens, tu vois, beaucoup de bagarres.
Des altercations entre conducteurs particulièrement fréquentes en Ile-de-France, comme le constate Olivier au volant de son bus toute la journée.
Ça klaxonne et puis y en a un qui va faire une insulte ou un doigt d'honneur et puis ça va en venir aux mains. C'est con parce qu'on est tous dans la même galère.
Pourtant, dans cette jungle urbaine, c'est un peu chacun pour soi. Tout est permis pour gagner quelques minutes sur son trajet. Martial vit dans le Val-de-Marne. Il prend sa voiture tous les jours pour se rendre à Paris.
Beaucoup de gens justement qui se collent, faire des queues de poisson, histoire de dire non, c'est moi qui est devant. Doublez pas la droite, de plus en plus sur l'autoroute, c'est quelque chose qui est normal.
Des franciliens comme Lou qui s'affranchissent des règles de bonne conduite.
Klaxonner, oui. Oh, oui, j'insulte, oui. Et prendre la voie de bus pour pas que les taxis passent, ouais. Ça m'énerve qu'ils passent avant. Donc souvent, je mets entre les deux.
Ça a le mérite d'être honnête, ce n'est pas le cas de 97% des automobilistes qui estiment avoir une bonne conduite selon cette étude Ipsos.
Clément Barguin, et sans compter cette nouvelle mode, hein, vous savez, des batailles de klaxons, ces automobilistes en colère qui se répondent sans fin à coups d'avertisseurs délicieux. En voilà un qui a le pouvoir de se mettre à l'abri des incivilités sur la route. Le funambule Nathan Paulin a battu cet après-midi le record du monde sur Slackline, cette sangle élastique qui permet aux plus téméraires de marcher en équilibre dans le vide. Nouveau record mondial donc, établi au Mont-Saint-Michel. Image impressionnante de Nathan Paulin qui est donc parvenu à franchir la distance de 2200 mètres en équilibre dans ce décor mondialement célèbre. Tout est en place donc pour que la vidéo fasse certainement le tour de la planète. Le PSG ouvre une enquête interne après le signalement de faits de harcèlement et d'agression sexuelle au sein de la section féminine du club. L'entraîneur Didier Olé-Nicole est accusé d'avoir eu un comportement déplacé avec une jeune joueuse. Dans un communiqué ce soir, le PSG annonce avoir mis le coach en disponibilité dans l'attente des résultats de cette enquête interne.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
On retourne comme premier à la Porte d'Auteuil, à Paris. Cédric Chasseur en direct de Roland-Garros. Cédric, avant les matchs en cours, un mot encore, des adieux de Joe Wilfried Tsonga, battu pour son dernier match par le Norvégien Casper Ruud.
À la fin d'une formidable carrière donc de 18 ans au plus haut niveau, moment inoubliable, on a entendu Joe Wilfried Tsonga, il l'a partagé avec le public, mais aussi sa famille, ses amis qui sont venus le retrouver sur le court pour lui rendre hommage, à commencer par sa compagne Noura.
J'avais un peu mal au ventre avant d'y aller, j'avais très peur de comment ça allait commencer. J'avais peur que ce ne soit pas à l'image de ce qu'il avait envie de vivre. Et je pense qu'on a tous été très surpris de sa capacité aujourd'hui à faire son match. C'était incroyable, je pense qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Le temps, le monde qu'il y avait dans les gradins, le match, qui était à son image quand même. Et la cérémonie, ils ont été vraiment géniaux sur ce qu'ils ont organisé.
Voilà, Noura, la femme de Joe Wilfried Tsonga, nouveau retraité du tennis à 37 ans.
Un point maintenant, Cédric, sur les matchs en direct avec un autre joueur qui fait ses adieux à Roland-Garros cette année, c'est Gilles Simon.
Et oui, lui, il va faire ses adieux. Il doit arrêter à la fin de la saison. Il a décidé d'aller jusqu'au bout de la saison, Gilles Simon, mais il n'a pas envie de s'arrêter ici à Roland-Garros. Il mène 6-4 dans la première manche face à Pablo Carreño Busta, tête de série numéro 16. 2-1 dans la deuxième manche. Mais ce n'est pas le seul à faire une petite surprise sur le court Suzanne Lenglen. Chloé Paquet fait jeu égal avec Arina Sabalenka, tête de série numéro 7. 6-2 pour la Française dans la première manche. 3-6 et 2-1 pour la Française dans la troisième. Et puis sur le court central, le court Philippe Châtrier, on est en train d'assister aussi à une petite surprise, une grosse surprise même avec Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 4, le grec qui est mené 7-5, 3-0 par l'italien Lorenzo Musetti.
Et parmi les résultats importants de cette journée, Cédric, c'est l'exploit du jour qui est signé Hugo Gaston.
Oui, le Toulousain de 21 ans qui avait fait chavirer Roland-Garros en septembre 2020 a remis ça cet après-midi au terme d'un match de près de 4 heures. Il est parvenu à battre la tête de série numéro 19, l'Australien Alex de Minaur. Il est d'ailleurs le premier Français à gagner grâce au super tie-break instauré désormais à la fin de la cinquième manche. 10 points à 4, Hugo Gaston, qu'on a retrouvé après sa rencontre un peu fatigué.
Bon, là, à l'instant T, je suis fatigué, ce qui est normal. Hein. Je suis pas un robot, mais non, je suis très content de m'en être sorti. C'était une première pour moi de jouer sur un Lenglen plein. J'ai essayé de donner le maximum, de tenter ma chance. Comme je l'ai dit, je suis arrivé à Roland avec peu de confiance, peu de matchs dans les jambes. Donc c'était le seul petit problème, on va dire, mais je me sentais quand même prêt. Donc non, c'est en grande partie aussi grâce au public que j'ai pu faire un match comme ça.
Sont qualifiés donc pour le deuxième tour comme Richard Gasquet, Caroline Garcia et Alizé Cornet. Le tournoi s'arrête en revanche pour Benoît Paire, Benjamin Bonzi, Hugo Humbert ou encore Fiona Ferro.
Merci Cédric Chasseur en direct de Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi. La météo, Valérie Darmon, est-ce que c'est le beau temps qui revient demain?
Et oui, il revient de manière relative en même temps que les hautes pressions petit à petit sur la France. Certaines régions comme de la Bretagne à la Normandie vont rester dans les nuages toute la journée et même le vent de sud-ouest va se renforcer soufflant à 50 km/h en rafale sur les côtes et donnant un ressenti un petit peu tristoun. Les températures y sont d'ailleurs assez fraîches pour la saison. Des pays de la Loire au bassin parisien, aux Hauts-de-France, de belles éclaircies vont se développer et les températures vont rester fraîches, tout aussi fraîches d'ailleurs que sur le nord-ouest, en dessous des normales l'après-midi. La Nouvelle-Aquitaine est coupée en deux. Les nuages dominent du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie avec des averses près des Pyrénées et de la neige en montagne au-dessus de 2000 mètres et de belles éclaircies qui se développent au nord, passé les bancs de brume du matin. Dans le Grand Est jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la journée s'annonce plutôt agréable avec une alternance de soleil et de passages nuageux. Les orages éclatent uniquement dans l'après-midi dans l'extrême sud-est et il faut compter à vos thermomètres entre 18 et 24.
Merci Valérie Darmon, un nouveau point météo avec vous sur Europe 1 à minuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire. Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Alexandre.
Les valeurs de technologie retombent à Wall Street dans le sillage de la chute de Snapchat.
Oui, passé le rebond d'hier, les valeurs de technologie rechutent lourdement. Le Nasdaq cède 2,35%, 11 264 points. Le Dow Jones résiste quand même, plus 0,15% à 31 928 points. Mais c'est Snapchat, effectivement, qui sème un petit peu le bazar à Wall Street. Le réseau social chute de 43%, une dégringolade à $12,79 après l'avertissement du groupe et des résultats prévus inférieurs aux prévisions. Alors évidemment, tout le monde suit, tous les autres réseaux retombent. Facebook recule de plus de 7%, $181. Twitter, moins 5%, $35,76. Les valeurs de technologie sont vraiment affectées. On a Tesla, moins 7%, on a Amazon, moins 3%, Google, moins 5%, Apple perd 2%, c'est un moindre mal, $140. Il y a toujours un vainqueur, c'est le pétrole, hein, qui campe toujours aussi au perché, $110 le baril américain, ça donne Exxon en hausse encore de 0,5%, Chevron plus 0,4%, l'euro aussi s'en tire pas mal sur les 1,07 face au dollar.
La bourse de Paris a aussi reperdu du terrain derrière Air France qui a plongé de 20%.
Oui, le rebond d'hier n'a pas duré, là encore ça retombe lourdement. Le CAC 40 moins 1,66%, 6253 points. La victime du jour, c'est effectivement Air France KLM, qui a dégringolé de 20%, 3,45€ après l'annonce d'une augmentation de capital de 2,2 milliards d'euros à 1,17€ par action pour tenter de remettre d'aplomb les finances du groupe aérien. Évidemment, ça fait plonger, ça fait s'ajuster la valeur en forte baisse de 20%, 3,45€ ce soir. Les valeurs publicitaires aussi souffrent assez fortement. On a Publicis moins 7%, on a Deco, JC Deco moins 6%. Là, les analystes craignent une récession mondiale d'ici la fin de l'année qui plomberait lourdement les revenus des groupes publicitaires. Publicis donc en forte baisse de 7% ce soir à la clôture.
Exception du jour, Didier, les valeurs pétrolières ont progressé.
Comme à Wall Street, oui, la cherté du pétrole maintient le secteur à la hausse. On a Vallourec qui monte d'1,2%, Morel et Prom plus 1,9%. CGG campe sur les 0,95€ et le baril donc toujours au-dessus des $110 à New York ce soir. Les autres places financières sont à la baisse, comme le CAC 40, le DAX à Francfort moins 1,8%, Bruxelles moins 1%, Milan moins 1% aussi, puis le CAC 40 donc moins 1,66%, 6253 points.
Merci Didier Hamo. L'invité politique ce soir sur Europe 1, Franck Alizio, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président du groupe RN en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes aussi conseiller de Marine Le Pen et candidat RN aux législatives dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Franck Alizio, l'affaire Damien Abad, on le voit, embarrasse la majorité. Hein, le ministre des Solidarités accusé de viol par deux femmes. Marine Le Pen estime que le simple fait d'avoir un comportement inapproprié avec les femmes devrait écarter des postes de ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appelez à la démission de Damien Abad au Rassemblement National?
Non, Marine Le Pen n'a pas appelé à la démission. C'est une décision qui regarde le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre évidemment en question. Mais c'est évident que lorsqu'on est dans une telle situation, c'est compliqué vis-à-vis d'institutions de continuer à se défendre en étant en fonction. Et donc la logique, ce serait de prendre du champ pour pouvoir répondre à ces accusations.
C'est-à-dire que vous pensez que son choix de rester va nuire à la sérénité de l'action de ce nouveau gouvernement ?
Inévitablement, inévitablement. D'autant que c'est, comment dire, ces questions, cette situation était déjà, comment dire, le comportement de Monsieur Abad avait déjà fuité, y compris parmi vous, journalistes qui avaient déjà écrit des articles là-dessus. Donc c'est un comportement qui pose problème. Ça pose problème en tant que ministre. Évidemment, il y a toujours un devoir d'exemplarité. Évidemment, il y a également la présomption d'innocence. Mais pour pouvoir se défendre, vous comprenez bien qu'il faut prendre un petit peu de champ avec ses fonctions éminemment politiques que sont celles d'un ministre.
Mmh. Quand Elisabeth Borne dit que le premier projet de loi portera sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen y voit une victoire de votre camp. Les mesures envisagées par Bercy, elles sont à la hauteur, Franck Alizio?
Non, clairement non. C'est une victoire dans le sens où Marine Le Pen, elle ne défend pas seulement depuis quelques mois, pas seulement depuis la présidentielle, cette thématique très importante du pouvoir d'achat. Elle le défend depuis le début du précédent quinquennat. Avant même le mouvement des Gilets jaunes, Marine Le Pen parlait déjà pouvoir d'achat, faisait déjà des propositions en matière de pouvoir d'achat. Et les principales mesures fiscales choc en matière de pouvoir d'achat, c'était la baisse de la TVA, la baisse de TVA à 5,5 sur les énergies, c'est-à-dire la plus forte baisse de TVA de l'histoire, et une TVA à 0% sur certains produits de première nécessité. Ça, c'eût été une véritable réponse claire, nette, franche, un électrochoc fiscal pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pas les mesures prises annoncées par le gouvernement aujourd'hui.
Alors quand vous parlez d'une TVA à 0%, pas forcément en termes d'équité, Franck Alizio, parce que ici, les salariés au SMIC en profitent tout autant que les grosses fortunes, j'ai envie de dire.
Bah non, alors pour le coup, le débat fiscal existe depuis des décennies et on sait que l'impôt qui touche les plus modestes, l'impôt qui a plus d'effet sur les plus modestes, c'est la TVA, justement. C'est l'impôt, quand on veut faire une politique sociale, c'est l'impôt à baisser. Tout simplement parce qu'il y a une propension à consommer, c'est le vieux principe keynésien, une propension à consommer beaucoup plus forte lorsque vous avez des revenus modestes et à consommer les produits de première nécessité, et lorsque vous êtes aisé, eh bien ces produits de première nécessité pèsent beaucoup moins lourd dans votre budget. Par définition, si vous gagnez 10 000 euros, les produits de première nécessité pèsent beaucoup moins lourd en proportionnellement que dans un budget que lorsque vous gagnez 1 000 euros, tout simplement.
Franck Alizio, où est Marine Le Pen dans cette campagne des législatives ?
Eh bien, hier, elle était à Marseille et ce matin, elle était à Marignan, dans les Bouches-du-Rhône, dans mon département.
Oui.
Pour vous répondre géographiquement parlant.
On l'a entendu dire justement
donc
à Marignan.
En campagne.
On l'a entendu dire justement à Marignan, je suis bien là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des doutes à ce sujet ? Ça mérite d'être dit de sa part à elle-même ?
Bon, peut-être les vôtres, mais non, elle ne doute pas. Lorsque vous enchaînez à peu près une dizaine de... Depuis une dizaine de jours, que vous enchaînez plusieurs déplacements, que vous êtes chaque jour dans un département différent pour soutenir vos candidats et que vous faites vos trois derniers jours de la semaine dans votre propre circonscription, dans votre propre département, et c'est le rythme de Marine Le Pen après 6 mois de campagne présidentielle, je vous prie de croire qu'elle sait qu'elle est là et les Français savent qu'elle est là à leur côté. Ils l'ont encore vu ce matin sur le marché de Marignane.
Vous espérez toujours décrocher un groupe de députés RN à l'Assemblée ?
Évidemment. C'est le minimum. C'est le minimum. Et avec les résultats que Marine Le Pen nous a offerts, j'allais dire, parce qu'elle a fait l'essentiel du boulot, cette présidentielle, ça a été formidable mobilisation de nos électeurs. Et donc, c'est à nous de continuer cette dynamique, de la prolonger avec, à minima, un groupe. Mais c'est des dizaines de députés Rassemblement National qui doivent rejoindre les bancs de l'Assemblée en juin prochain.
On a pu avoir le sentiment à plusieurs reprises, Franck Alizio, en écoutant les candidats RN aux législatives, on a pu avoir une impression d'amateurisme chez certains d'entre eux. On les a vus intervenir sur des plateaux de télévision, dans les journaux, un petit peu désemparés face aux questions qui n'étaient pas des questions pièges.
Oui, sur 577 candidats, vous avez eu deux ou trois exemples de primo-candidats, donc c'est leur première fois, à la télé, c'est la première fois sur un plateau, il peut y avoir de la panique, on peut perdre ses moyens, c'est tout à fait humain, ça nous est arrivé à chacun, ça m'est arrivé à moi, ça vous est probablement arrivé à vous au début de carrière de journaliste, ça ne veut pas du tout, voilà, c'est pas significatif. Heureusement qu'il y a des primo-candidats qui rafraîchissent un petit peu, qu'il n'y ait pas que des vieux routiers de la politique, mais ce n'est pas du tout significatif d'un quelconque amateurisme de nos candidats et de notre parti.
Vous regrettez de ne pas avoir passé d'accord avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour ?
Non, dans le sens où il est normal que chacun défende ses couleurs, comme on l'a fait pendant la présidentielle. Personne n'a demandé à... Voilà, et Éric Zemmour a voulu aller sous ses propres couleurs. Les électeurs, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés. Au second tour, les électeurs d'Éric Zemmour ont voté à 80% Marine Le Pen. Cette union se refera au second tour. Et si c'est un candidat Reconquête qui est en tête dans une circonscription, eh bien, nous le soutiendrons. Et si c'est un candidat Rassemblement National, nous sommes convaincus que les électeurs de Reconquête le soutiendront. Il n'y a aucun souci là-dedans. Chacun Bien. Arrive avec ses idées et défend ses convictions.
Merci Franck Alizio, vice-président du groupe Rassemblement National en Provence-Alpes-Côte d'Azur, candidat RN aux législatives dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône.
Merci à vous.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
À la une de la presse, demain, mercredi 25 mai, le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, le témoin qui dérange et qui parle à Libération. Un mois après le début du procès, l'élu alors chargé des transports en Ile-de-France témoigne auprès de Libé, mis à l'écart de la procédure. Eh bien, il met en cause la SNCF et pointe la responsabilité de ses dirigeants. Les retraites, à la une de l'opinion, et déjà des doutes sur la réforme, car le gouvernement se fait de plus en plus prudent sur un recul de l'âge légal, il esquisse des issues de secours. Même les 64 ans, écrit l'opinion, ne semble plus qu'une hypothèse. Le manque de personnel et l'hôpital au bord de l'asphyxie, c'est la une du Figaro. Des urgences en crise, des maternités menacées de fermeture. La pénurie de soignants est bien là, elle est profonde et elle affecte un très grand nombre d'hôpitaux français désormais. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien. Vous avez une bonne petite mine là, ce soir.
Ah bon ?
Oui, vous avez mieux dormi, je sens.
C'est possible.
Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez quelques problèmes de voisinage.
Ça arrive. On parlait des incivilités au volant, vous voyez.
Mais vous savez, il faut que vous appeliez la libre antenne et puis on va régler tout ça.
Si la libre antenne est le lieu pour régler tout ça, c'est important de le savoir.
Venir en parler pour je vous apprendrai à gérer une crise comme ça, une crise en pleine nuit de gens qui hurlent à votre... Au bas de votre immeuble, hein, je crois.
Oui, c'est un petit cocktail, il y a un petit peu tout. C'est dans les rues de Paris. Hein,
il y a un petit cocktail dans les rues de Paris. Vous avez raison, c'est mignon un petit cocktail.
Voilà.
Bon, en tout cas, ouais, vous êtes rendormi ?
Oui, ça va, vous inquiétez pas.
Bon, très bien. Tout va bien, là, dans l'actu.
J'ai un bon sommeil. Oui, dans l'actu. Bah, écoutez, dans l'actu, toujours très riche, hein, comme vous l'avez entendu.
J'ai entendu, Marine Le Pen est toujours là. On l'a appris ce soir, donc ça, c'est bien.
On a beaucoup parlé de Joe Wilfried Tsonga également.
Complètement. Et puis ce pauvre ministre-là, quand même. Ce pauvre ministre qu'on accuse, là, c'est... Franchement, ça émeut la population. Hein.
Vous parlez de Damien Abad.
Exactement. Il y a beaucoup de... J'ai entendu beaucoup aujourd'hui les gens parler de tout ça, quoi, qui s'étonne vraiment de... Bon, la présomption d'innocence a pratiquement disparu, on dirait.
En tout cas, elle est là et il reste au gouvernement. Elle doit être respectée naturellement.
Elle doit être respectée, ce qui n'est pas la vie de tout le monde, vous êtes d'accord ?
Il n'est pas la vie de tout le
monde. Bon, voilà. En tout cas, voilà, il peut appeler aussi la libre antenne, le ministre, et on pourra lui donner 2-3 petits conseils.
Eh bien, nous verrons.
Bon, très bien. Bah, écoutez, petite sieste et puis on vous retrouve à 23h.
À tout à l'heure,
Olivier.